Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 1966, pour l'émission Le Livre de Chevet, la comédienne Tania Balachova avait choisi de lire une nouvelle extraite du Livre de la Jungle de Kipling, intitulée Rikki-Tikki-Tévi, du nom de la jeune mangouste dont les aventures sont contées. Après avoir été recueilli par une famille, le petit animal mène, au début du récit, un combat héroïque contre Nag, le méchant cobra noir, sauvant mère, père et enfant d'un assaut meurtrier. À la fin de la nouvelle, Rikki-Tikki décide de s'en prendre à Nagaina, la femme de Nag, pour mettre un terme définitif à la terreur que les serpents font régner sur la maison. Y parviendra-t-elle ? Réponse dans cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 octobre 1966.
Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, mais que nous avons passé avec un livre préféré. Le livre de chevet de Tania Balachova.
Il y a des écrivains pour lesquels j'ai une tendresse. J'ai pensé à Kipling. Ce soir, je vais vous lire la fin des aventures de Rikki-Tikki-Tévi. Le lendemain matin, Rikki-Tikki était fort raide, mais très content de ses hauts faits. « Maintenant, j'ai Nagaina à régler, et ce sera pire que 5 Nag. » En outre, qui sait quand les œufs dont elle a parlé vont éclore ? Bonté divine, il faut que j'aille voir Darcy, dit-il. Sans attendre le déjeuner, Rikki-Tikki courut au buisson épineux où Darzi, à pleine voix, chantait un chant de triomphe. La nouvelle de la mort de Nag avait fait le tour du jardin, car le balayeur avait jeté le corps sur le fumier. « Oh, sa touffe de plumes !» dit Rikki-Tikki avec colère. « Est-ce le moment de chanter ?»«
Nag est mort, est mort, est mort !» chanta Darzi. « Le vaillant Rikki-Tikki l'a saisi par la tête et n'a point lâché. L'homme a porté le bâton qui fait boum et Nag est tombé en 2 morceaux. Il ne recommencera plus à manger mes bébés. »
Tout cela est vrai, mais où est Nagaina ? Demanda Rikki-Tikki en regardant soigneusement autour de lui.
Nagaina est venue au conduit de la salle de bain pour appeler Nag, continua Darzi, et Nag est sorti sur le bout d'un bâton. Le balayeur l'a ramassé au bout d'un bâton et l'a jeté sur le fumier, chantant le grand Rikki-Tikki à l'œil rouge.
Et Darzi enfla son gosier et chanta. Si je pouvais atteindre à votre nid, « je jetterai vos bébés dehors, » dit Rikki-Tikki. « Chaque chose en son temps. Vous êtes là dans votre nid, à peu près en sûreté, mais ici en bas, c'est pour moi la guerre. Arrêtez-vous pour une minute de chanter Darzi. »
« Pour l'amour du grand, du beau Rikki-Tikki, je vais m'arrêter, » répondit Darzi. « Qu'y a-t-il, ô tueur du terrible Nag ?»«
Pour la troisième fois, où est Nagaina ?»« Sur le fumier, près des écuries, menant le deuil de Nag. »
Glorieux est Rikki-Tikki, le héros, blanche dents.
Au diable, mes blanches dents! Avez-vous jamais ouï dire où elle garde ses œufs? Dans la melonnière, au bout, tout près du mur, à l'endroit où le soleil tape presque tout le jour. Il y a 2 semaines qu'elle les a cachés là. Et vous n'avez jamais pensé que cela valut la peine de me le dire? Au bout, tout près du mur, dites-vous. Rikki-Tikki! « Vous n'allez pas manger ces œufs ?»«
Pas exactement les manger, non. »«
Darzi, s'il vous reste un grain de bon sens, chose. Vous allez voler aux écuries, faire semblant d'avoir l'aile cassée et laisser Nagaina vous donner la chasse jusqu'à ce buisson. Il me faut aller à la melonnière et si j'y allais maintenant, elle me verrait. Darzi était un petit compère dont la cervelle emplumée ne pouvait tenir plus d'une idée à la fois. Et sachant que les enfants de Nagaina naissaient dans des œufs comme les siens, il ne lui semblait pas à première vue qu'il fût juste de les détruire. Mais sa femme était oiseau raisonnable. Elle savait que les œufs de cobra voulaient dire de jeunes cobras un peu plus tard. Elle se mit à volter près du fumier sous le nez de Nagaina et à gémir. « Oh, je l'ai cassé, le petit garçon de la maison m'a jeté une pierre et l'a cassé. » Et de volter plus désespérément que jamais. Nagaina leva la tête et siffla. C'est vous qui avez averti Rikki-tikki. Quand je voulais le tuer sans mentir, vous avez mal choisi l'endroit pour boiter. Et elle se dirigea vers la femme de Darzi en glissant sur la poussière.
Le petit garçon l'a cassé d'un coup de pierre, cria d'une voix perçante la femme de Darzi.
Eh bien, cela peut-être vous consolera quand vous serez morte de savoir que je vais régler aussi mes comptes avec le petit garçon. Mon mari gît sur le fumier ce matin, mais avant la nuit, le petit garçon sera couché très tranquille dans la maison. À quoi bon courir? Je suis sûre de vous attraper, petite sotte. Regardez-moi.
La femme de Darzi en savait trop pour faire pareille chose, car une fois que les yeux d'un oiseau rencontrent ceux d'un serpent, il est pris d'une telle peur qui ne peut plus bouger. La femme de Darzi, en pépillant douloureusement, continua de volter sans quitter le sol, et Nagaina pressa l'allure. Rikki-tikki les entendit remonter le sentier qui les éloignait des écuries et galopa vers l'extrémité de la planche de melon au pied du mur. Là, dans la chaude litière, au-dessus des melons, il trouva habilement cachés 25 œufs de la grosseur à peu près des œufs de poule de bantam, mais avec des peaux blanchâtres en guise de coquilles. « Je ne suis pas arrivé un jour trop tôt, » dit-il, car il pouvait voir les jeunes cobras rouler dans l'intérieur de la peau, et il savait que dès l'instant où ils éclosent, ils peuvent chacun tuer son homme, non moins que sa mangouste. Il détacha d'un coup de dent les bouts des œufs dardard en prenant soin d'écraser les jeunes cobras, et en retournant de temps en temps la litière pour voir s'il n'en omettait aucun. À la fin, il ne resta plus que 3 œufs, et Rikki-tikki qui commençait à rire dans sa barbe, quand il entendit la femme de Darzi crier à tue-tête « Rikki-tikki, j'ai conduit Nagaina du côté de la maison. Elle est entrée sous la véranda et oh, venez vite, elle veut tuer !» Rikki-tikki écrasa 2 œufs, redégringola de la melonnière avec le 3e œuf dans sa gueule et se précipita vers la véranda aussi vite que ses pattes pouvaient le porter. Teddy, sa mère et son père étaient là devant leur déjeuner du matin. Mais Rikki-tikki vit qu'il ne mangeait rien. Ils se tenaient dans une immobilité de pierre et leur visage était blanc. Nagaina, enroulée sur la natte près de la chaise de Teddy, à distance commode pour atteindre la jambe nue du jeune garçon, se balançait de ci, de là, en chantant un chant de triomphe. « Fils de l'homme qui a tué Nag !» sifflait-elle. « Reste tranquille, je ne suis pas encore prête. Attends un peu. » « Restez immobiles tous 3, si vous bougez, je frappe. Si vous ne bougez pas, je frappe encore. Ô insensé qui avait tué mon Nag !» Les yeux de Teddy restaient fixés sur son père, et tout ce que son père pouvait faire était de murmurer « Reste tranquille, Teddy, il ne faut pas bouger. Teddy, reste tranquille. » C'est alors que Rikki-tikki arriva et cria « Retournez-vous, Nagaina, retournez-vous et en garde !» « Chaque chose en son temps, » dit-elle sans remuer les yeux. « Je réglerai tout à l'heure mon compte avec vous. Regardez vos amis, Rikki-tikki. Ils sont immobiles et blancs. Ils sont épouvantés. Ils n'osent bouger. Et si vous approchez d'un pas, je frappe. »« Allez, regardez vos œufs, » dit Rikki. « Dans la melonnière, près du mur, allez voir, Nagaina. » Le grand serpent se retourna à demi et vit l'œuf sur le sol de la véranda. « Ah, donnez-le-moi, » dit-elle. Rikki-tikki
posa ses pattes de chaque côté de l'œuf, tandis que ses yeux devenaient rouges sang. Quel prix pour un œuf de serpent, pour un jeune cobra, pour un jeune roi cobra, pour le dernier des derniers de la couvée. Les fourmis sont en train de manger tous les autres par terre près des melons. Nagaina pirouetta sur elle-même, oubliant tout le reste pour le salut de l'œuf unique. Et Rikki-tikki vit le père de Teddy avancer rapidement une large main, saisir Teddy par l'épaule et l'enlever par-dessus la table et l'éteindre à sa tête, à l'abri et hors de portée de Nagaina. Voler, 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 glousse à Rikki-tikki triomphant. L'enfant est sauf et c'est moi, qui mordinaque au capuchon la nuit dernière dans la salle de bain. Puis il se mit à sauter de tous côtés, des quatre pattes ensemble, revenant raser le sol de la tête. Il m'a jeté de côté d'autre, mais il n'a pas pu me faire lâcher prise. Il était mort avant que l'homme l'ait coupé en deux. C'est moi qui ai fait cela, Rikki-tikki. Par ici, Nagaina, par ici et garde à vous, vous ne serez pas longtemps veuve. Nagaina vit qu'elle avait perdu toute chance de tuer Teddy, et l'œuf gisait entre les pattes de Rikki-tikki. Donnez-moi l'œuf, Rikki-tikki, donnez-moi le dernier de mes œufs, et je m'en irai pour ne plus jamais revenir, dit-elle, en baissant son capuchon. Oui, vous vous en irez, vous ne reviendrez plus jamais, car vous irez sur le fumier rejoindre Nag, en garde la veuve. L'homme est allé chercher son fusil en garde. Rikki-tikki bondissait tout autour de Nagaina, en se tenant juste hors de la portée des coups, ses petits yeux comme deux braises. Nagaina se replia sur elle-même et se jeta sur lui. Rikki-tikki fit un saut en l'air et retomba en arrière. Une fois, une autre, puis encore, elle voulut le frapper. Mais à chaque reprise, sa tête donnait avec un coup sourd contre la natte de la véranda, tandis qu'elle se rassemblait sur elle-même en spirale comme un ressort de montre. Puis, Rikki-tikki dansa en cercle pour arriver derrière elle. Et Nagaina tourna sur elle-même pour rester face à face avec lui, et sa queue, sur la natte, bruissait comme les feuilles sèches au vent. Rikki-tikki avait oublié l'œuf. Il gisait encore sous la véranda, et Nagaina s'en rapprochait peu à peu, jusqu'à ce qu'enfin, tandis que Rikki-tikki reprenait haleine, elle le saisit entre ses dents, fila vers les marches de la véranda et descendit le sentier comme une flèche, Rikki-tikki derrière elle. Lorsque le cobra court pour sauver sa vie, il prend l'aspect d'une mèche de fouet qui cingle l'encolure d'un cheval. Rikki-tikki savait qu'il lui fallait la joindre ou que tout serait à recommencer. Nagaina filait droit vers les longues herbes près du buisson épineux et tout en courant, Rikki-tikki entendit Darzi qui chantait toujours son absurde petit chant de triomphe. Mais la femme de Darzi, plus raisonnable, quitta son nid en voyant arriver Nagaina et battit des ailes autour de sa tête. Avec l'aide de Darzi, ils auraient pu la faire retourner. Mais Nagaina ne fit que baisser son capuchon et continua sa route. Toutefois, cet instant de répit amena Rikki-tikki sur elle, et comme elle plongeait dans le trou de rat où elle et Nag avaient coutume de vivre, les petites dents blanches de Rikki-tikki se refermèrent sur sa queue et il entra derrière elle. Or, très peu de mangoustes, quelle que soit leur sagesse et leur expérience, se soucieraient de suivre un cobra dans son trou. Il faisait noir dans le trou, et comment savoir s'il n'allait pas s'élargir et donner assez de place à Nagaina pour faire demi-tour et frapper. Il tint bon, avec rage, les pieds écartés pour faire office de frein sur la pente sombre du terreau tiède et moite. Puis l'herbe autour de la bouche du trou cessa de s'agiter, et Darzi dit « C'en est fini de Rikki-tikki Teddy, il nous faut chanter son chant de mort. Le vaillant Rikki-tikki est mort, car Nagaina le tuera sûrement sous terre. » C'est pourquoi il entonna une chanson des plus lugubres, improvisée sous le coup de l'émotion. Et comme il arrivait juste à l'endroit le plus touchant, l'herbe bougea de nouveau, et Rikki-tikki, couvert de terre, se traîna hors du trou, une jambe après l'autre, en se léchant les moustaches. Darzy s'arrêta avec un petit cri de surprise. Rikki-tikki secoua un peu la poussière qui tachait sa fourrure et éternua. « C'est fini, » dit-il. « La veuve ne reviendra plus jamais. » Et les fourmis rouges qui habitent parmi les tiges d'herbe l'entendirent et descendirent en longue procession pour voir s'il disait vrai. Rikki-tikki se pelotonna sur lui-même dans l'herbe et dormit sur place, dormit jusqu'à une heure tardive de l'après-midi, car sa journée de travail avait été dure.
Tania Balachova a lu ce soir Rikki-tikki ta vie, extrait du livre de la jungle de Kipling. C'était le livre de chevet de Tania Balachova, une émission de Jean-Vincent Bréchignac, assistante de production Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 octobre 1966. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.